France Info.
Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
Bonjour.
C'est lundi de Pâques et ce week-end, les enfants se sont mis à chercher des œufs en chocolat un peu partout, sauf que ces œufs, ils ont coûté plus cher cette année, Thierry Marx, 5% de plus par rapport à l'année dernière. Comment vous l'expliquez ?
Bon, il y a plusieurs explications et finalement il y a le phénomène climatique et puis il y a la hausse des besoins, donc l'industrie a mobilisé un peu beaucoup d'argent là-dessus pour bloquer un peu des stocks et puis vraiment c'est des coûts qui ont explosé dû surtout à ces problèmes de climat donc aujourd'hui le chocolat, alors c'est moins vrai pour les artisans qui eux stockent beaucoup moins, ont besoin de beaucoup moins bloquer de réserves. Et
ça veut dire si on a acheté beaucoup plus tôt, et bien en fait,
exactement,
le chocolat a coûté beaucoup plus cher.
Exactement. Et donc, il y a des stocks comme ça qui ont fait flamber un peu les prix. Et puis, il y a aussi la fabrication pour ces chocolatiers, l'augmentation de leur coût de personnel, leur augmentation de coût d'énergie. On a l'impression que ça toucherait que les restaurateurs ou les hôteliers, mais ça touche aussi l'artisanat qui est obligé de répercuter un petit peu ses coûts de production.
Ça vaut pour le chocolat, ça vaut pour d'autres prix alimentaires. Est-ce que, alors à l'heure où on parle de la fin de l'inflation, vous le sentez ça chez les restaurateurs, le fait que les prix vont stagner ?
Oui, parce qu'on parle toujours de l'inflation. On fait, il y a un pic, et puis finalement on redescend pas sous ce pic. On va rester sur ce pic des coûts des matières premières. Donc ça. Mais il est vrai que pour l'artisanat, le coût des matières premières, on sait à peu près maîtriser. Vraiment, je dis pas que ça gêne dans nos coûts de production, ça gêne évidemment nos coûts de production, mais vraiment c'est un peu mieux maîtrisé. Mais l'inflation fait mal, elle fait mal partout, elle fait mal sur le coût des matières premières, bien évidemment, mais le pire est le coût de l'énergie.
Ah, et ça se répercute forcément.
Oui, parce que ça devient entre 7 et 8% de votre assiette. Si vous regardez votre assiette, il y a que de l'énergie, entre 5 et 6%, c'est de l'énergie. Le reste, c'est l'augmentation des coûts des matières premières et puis l'augmentation, et c'est assez normal, du coût du travail aussi. Ça, c'est une inflation qui a été forte. Nos métiers ont augmenté de 16% les minima dans nos corporations.
On va revenir sur le coût du travail justement, Thierry Marx, mais en décembre, il y a eu un coup de frein sur la fréquentation des restaurants. Elle a stagné alors qu'elle augmentait en moyenne de 6% chaque mois depuis l'été. Ça se confirme là, en ce début d'année. Vous voyez les gens éviter d'aller au restaurant quand ils le peuvent.
Bon, ça se confirme, bien évidemment. Il y a des arbitrages, donc restaurant ou week-end, ben, peut-être que ce sera week-end et pas restaurant, et même sur la consommation. Quand le client est dans le restaurant, c'est des arbitrages sur le vin, sur un plat en plus ou un plat en moins. Évidemment, il y a des arbitrages qui sont faits, donc les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Ça se traduit sur l'addition moyenne ?
Oui, bien sûr, on a une perte du ticket moyen. Oui.
De quel ordre ?
Il y a des pertes jusqu'à 15 à 20%.
Depuis la fin de l'année dernière.
Exactement. Et ne pas oublier que déjà à la fin de l'année dernière, c'était 7600 entreprises qui ont fermé, qui étaient déjà en grande difficulté certes, mais qui ont mis la clé sous la porte.
Et là encore aujourd'hui, avec cette inflation qui diminue, vous avez encore des restaurateurs qui vous appellent et qui vous disent on est dans le rouge là, on n'arrive pas à s'en sortir malgré
cette baisse de l'inflation. Énormément de restaurateurs et d'hôteliers qui nous appellent en disant oui, on est dans le rouge, et surtout on a brûlé notre trésorerie, c'est-à-dire qu'on a tellement payé sur l'énergie que notre trésorerie n'est plus là. Donc le moindre écart, la moindre turbulence fait que l'entreprise est dans le rouge. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que on voit pas le bout du tunnel.
Et vous pouvez pas vraiment compter sur les pouvoirs publics en ce moment parce que l'ambiance n'est pas vraiment à distribuer des aides.
On a bien compris. Le message est très clair, mais en même temps, on se dit il y a quand même des opportunités d'aller chercher des fois des taxes qui nous sont imposées, nous, hôteliers, restaurateurs, et qui ne sont peut-être pas imposées aux meublés touristiques.
Il y a un sujet de débat sur lequel il faut qu'on vienne. Il n'y aura finalement pas d'obligation de mentionner si un plat est fait maison ou bien issu d'un fournisseur industriel dans un restaurant. Et là, il faut que vous nous expliquiez, Thierry Marx, parce que vous étiez contre et on a un peu de mal à comprendre pourquoi. On a le sentiment que c'est plutôt une bonne chose pour le client, pour le consommateur,
d'ailleurs,
d'être transparent.
Je vais vous répondre. D'abord, on va arrêter de dire Thierry Marx. Thierry Marx est pour le fait maison. Ça fait 40 ans que je défends le fait du guide Michelin et de différents guides qui m'ont soutenu dans ma démarche.
Mais alors, vous êtes
tiraillé. Je vais vous répondre clairement. On est pour le fait maison, bien évidemment, dans une loi cadre. Dans une loi cadre, écoutez-moi bien. Et finalement, les gens qui disent entre le fait maison et le pas fait maison, nous on dit le pas fait maison, c'est stigmatisant. Ramenons tout le monde dans le fait maison. Je vous rappelle qu'il y a un décret de 2015 qui avait déjà clairement établi un terme de choses. On a continué à travailler avec la DGCRF, les organismes de contrôle, pour arriver au bout du fait maison. Maintenant, on volte-face, on dit non, le fait maison ne nous intéresse plus, on veut le non-fait maison. Excusez-moi, je vous donne juste un exemple. Vous prenez une carte de restaurant où il y a le logo fait maison, en face, chaque plat. Oui. Les plats où il n'y a pas le logo fait maison, c'est quoi ?
Et bah, du coup, ça peut être du surgelé, c'est ça ?
Ça va être le fondant
du non-fait maison.
Surgelé,
on est d'accord.
Oui, c'est ça,
c'est un. Donc aujourd'hui, je dis au gouvernement, j'ai écrit même au député M. Ramos, je lui ai dit, on a 600 000 entreprises aujourd'hui qui sont d'accord, écoutez-moi bien, 600 000 pour aller sur le fait maison. Quand on parle de ça, on ne parle pas que des restaurateurs. On parle de l'ensemble des métiers de bouche qui vous garantiraient que le produit est fait maison.
Donc
ça
si
protège
on comprend
quoi
bien.
Le mot restaurant et ça protège surtout l'artisanat.
Si on comprend bien, vous êtes OK pour inscrire fait maison, mais ne pas forcément indiquer quand ce n'est pas le cas.
Exactement. Mais par définition, on défend la même chose. On défend
oui,
la
mais
même
alors
chose.
Du coup, justement, est-ce qu'on ment pas un peu par omission aux consommateurs quand on ne leur dit pas ce qu'ils mangent ?
D'abord, très, très honnêtement, quand il y aura marqué fait maison partout, dans une loi cadre, c'est-à-dire qu'il y a un affichage dans le restaurant qui vous garantit que c'est respecté par la loi, et si le restaurateur ne le fait pas ou l'artisan ne le fait pas, il est condamnable, c'est quand même une avancée incroyable. Mmh. Vous avez 600 000 entreprises aujourd'hui qui disent « on veut du fait maison », ça va faire de l'attractivité pour nos métiers, pour nos établissements. Donc nous, on est pour le fait maison, et quand les gens me parlent du non-fait maison, mais pourquoi ce volte-face au dernier moment ? On était prêts tous à signer pour une loi, je répète, pour une loi cadre, c'est-à-dire que qui soumet à un contrôle très fort des pouvoirs publics sur cet affichage. C'est quand même, c'est jamais arrivé d'avoir tous les syndicats alignés, disant on est d'accord, on y va.
Oui, mais sauf que même au sein de l'UMI, au sein de votre syndicat, tout le monde n'est pas d'accord. Stéphane Manigold, qui est votre ancien concurrent pour la présidence de l'UMI, justement, il vous accuse d'être à la solde des industriels.
Lesquels ? Quand vous...
Vous faites de l'agro-business, vous.
D'abord, il ne faut pas confondre opposition et calomnie. Ce n'est pas la même chose. Donc, moi, je connais ce monsieur, il était en face de moi. Personne n'a voulu qu'il soit élu à mon poste. J'y peux rien. Maintenant, quand on parle d'industriels, lesquels ? Quel industriel, prouvez-le-moi, est intéressé par la restauration ?
Mais ceux qui fournissent, par exemple, tous ces plats qui sont pour les uns surgelés, qui sont préparés à l'avance. C'est ça qu'il y a derrière. Maintenant, il faut nous expliquer. C'est tout ce qui est préparé, quoi.
D'accord. Mmh. Mais si vous avez un logo fait maison dans une loi cadre, vous protégez le consommateur. D'un côté comme de l'autre...
L'obligation d'inscription du fait maison va obliger... Du coup, les restaurateurs à faire du fait maison véritablement.
On est bien d'accord.
Et donc, pour les industriels, ça peut être compliqué.
Mais en tout cas,
parce qu'ils vont être
je vous donne
sollicités.
Et ma parole d'honneur que vous pouvez venir en tant que journaliste à l'UMI voir si des industriels pèsent sur nos comptes. Je vous assure que dans l'état actuel de nos comptes, personne ne pèse sur nos comptes et nous propose quoi que ce soit pour faire pression. Encore une fois, le fait maison protégera l'artisanat, protégera l'assiette et la transparence de l'assiette.
Et alors juste une petite question subsidiaire, c'est parce qu'en Italie, eux, ils doivent inscrire quand il y a des produits surgelés. Là, ça là-dessus aussi, vous êtes contre ?
Mais non, pas du tout. Entièrement d'accord pour défendre le fait maison dans une loi cadre. Et ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est d'abord, ce volte-face. 2015, il y a un décret sur lequel on a mobilisé quand même beaucoup de fonctionnaires, on a mobilisé beaucoup de temps, on a eu des réunions il y a un mois à Bercy où on était tous très mobilisés. Et enfin, on a aligné tous les syndicats, mais pas simplement les syndicats d'hôtellerie-restauration, y compris les syndicats qui représentent l'artisanat. C'est quand même énorme.
Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Brakia.
Et nous sommes toujours avec le chef étoilé Thierry Marx, président de l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. 200 000 postes vacants dans votre secteur, 200 000 postes, une entreprise sur deux a des problèmes de recrutement. Est-ce que c'est parce que vous payez trop mal ?
Non, d'abord, on fait partie des professions qui avons augmenté les salaires, 16%, c'est quand même pas rien. Nous l'avons fait à la sortie du Covid. Dans une posture dans laquelle on n'était pas... Non, je pense que les problèmes de recrutement sont liés d'abord à une démographie qui va s'accélérer. 2027, c'est le pic du déclin démographique en France, c'est ce que l'on dit. Et puis, il y a aussi le problème de logement. Et puis, de s'interroger sur le fond, pourquoi le travail n'émancipe plus depuis 40 ans en France. Là aussi, il y a un sujet, la taxation du travail. Vous savez, quand on donne 200 euros ou 100 euros à un collaborateur, finalement, nous, ça nous coûtera 300 quasiment, et lui, il en percevra 40.
Alors, donc, à un moment donné, les problèmes les uns après les autres. Commençons donc d'abord par les 16% d'augmentation dont vous parliez. Dans le même temps, il y a eu plus de 20% d'inflation alimentaire. Est-ce que c'était suffisant? Est-ce que le pouvoir d'achat dans votre secteur n'a pas un peu diminué?
Alors, je vais vous répondre, je vais vous donner un chiffre tout bête. 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous voyez ce que ça représente pour un petit cafetier. 100 000 euros de chiffre d'affaires, il lui reste 2 000 euros à la fin du mois.
Donc net. Sur cette base-là, il n'est pas possible.
Il n'a pas de partage de la valeur possible.
Voilà.
Donc à un moment donné, aujourd'hui, le revenu d'un restaurateur, il est des fois pas suffisant pour pouvoir permettre, un, l'augmentation de l'énergie, l'augmentation des coûts matières premières, plus l'augmentation des salaires. À un moment donné, il faut regarder dans le détail. Je pense qu'on n'est pas sur un problème conjoncturel, on est sur un problème structurel de nos sociétés. Aujourd'hui, énormément de mécanismes ne fonctionnent plus. Et quand je pense aux mécanismes du coût du travail, il y a une dérégulation là-dessus. Quand vous voyez qui s'installe une ubérisation du travail, eh bien, il faut s'interroger. Pourquoi la personne qui travaille veut percevoir son salaire brut pour pouvoir jouir de son salaire brut et ne plus rentrer dans un modèle qui soit lié à l'entreprise.
Quand avec vous tout parlez d'ubérisation, c'est que ceux qui étaient salariés se mettent maintenant à leur compte en statut d'auto-entrepreneur.
Exactement.
Pour ne pas dépendre d'un employeur.
Pour ne pas dépendre d'un employeur, pour planifier aussi leur vie, mais aussi se dire, eh bien, avec mon salaire brut, je vais opérer comme je veux mon budget. Et là, il y a un sujet de fond sur le fait que quelqu'un, quand il va rentrer dans notre métier, va être environ entre 1800 et 2000 euros, pourquoi il lui reste 1400 euros. On peut lui expliquer que c'est la solidarité nationale et que ça fonctionne comme ça.
Oui.
Mais très aujourd'hui, ça ne lui permet pas de se loger, ça ne lui permet pas la mobilité et le 10 du mois, il est à découvert.
En fait, vous dites comme Bruno Le Maire...
Je finis le propos là-dessus, c'est que ça ne concerne pas que les métiers de l'hôtellerie-restauration. Oui. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'à un moment donné, on a un problème structurel et pas conjoncturel. Ça concerne le bâtiment, ça concerne toutes les industries, ça concerne le monde de la santé. Et à chaque fois, on m'interroge, et c'est normal, je suis le président de l'UMI, sur uniquement le phénomène qui serait lié à l'hôtellerie-restauration. Mais c'est général. Donc à un moment donné, il faut élever le débat et de s'interroger pourquoi les mécanismes ne fonctionnent plus.
Vous dites comme Bruno Le Maire, en fait, le ministre de l'économie, l'écart entre le salaire brut et le salaire net est trop grand maintenant, il faut assumer de le rétrécir, quitte à mettre de côté des cotisations qui justement alimentent notre système de solidarité, notre système social.
Encore une fois, je le redis et je reprends pas les propos de monsieur du ministre, mais la voiture balai du SMIC, c'est un sujet. Aujourd'hui, beaucoup de gens, cette voiture, le SMIC qui augmente très bien, mais ramène des personnes qui disent, mais attendez, moi je suis un ouvrier qualifié, pourquoi je me retrouve au SMIC? Donc ça, c'est
vous
un sujet.
Vous constatez ça, la smicardisation de
vos
employés.
Ah oui, bien sûr. À un moment donné, il ne faut pas avoir peur des mots, il faut juste avoir un débat apaisé pour se dire, on avait un modèle qui fonctionnait dans le 20e siècle, qui commençait très sérieusement à se déréguler, on est dans le 21e, qu'est-ce qu'on fait? Et on l'a vu avec
justement,
cette crise de
l'agriculture. Justement, qu'est-ce qu'on fait? On enlève par exemple, il y avait l'idée... selon Bruno Le Maire, encore une fois, puisqu'il a écrit un livre en ce sens, est-ce qu'il faut, par exemple, baisser des points de la CSG et pour permettre de relier
très
le gros tonnette?
Entre les organismes syndicaux salariés, les organismes syndicaux professionnels et l'État, il faut élever le débat et de se dire quelle société on veut pour dans 10 ans. C'est pas le sujet. Sinon, on va vivre que des crises successives. Regardez l'agriculture. On s'est dit, bon, on va faire des lois Egalim. On répond à des crises par des placebos, finalement. À un moment donné, c'est quoi le problème? Il faut projeter. Il faut, à un moment donné, que cette société se mette en capacité de faire des forecasts, faire des prévisions pour mettre les étapes en face.
Mais vous faites partie de ceux qui disent que le système social est trop généreux en France ou pas?
Ah non.
D'accord.
Non.
Parce qu'il faut le financer.
Mais voilà. Encore une fois, je dis pas que moi je vois 2 millions de gens à l'aide alimentaire, je vois énormément de gens qui sont dans des minima sociaux qui sont insupportables. Je ne veux pas aller ça. Je dis, il faut projeter, il faut élever le débat. Si on fait que des rhétoriques, et ce que je suis en train de faire, pardon, mais que des rhétoriques de plateau, eh bien, ça sert à rien. Il faut élever le débat et être en capacité de projeter le modèle de société que nous voulons.
Il y a des sujets dont vous parlez, enfin, parmi les sujets, il y a le problème du logement. Vous disiez que le coût du logement a fortement augmenté. Ça vous empêche de recruter dans les zones touristiques.
Complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dérégulation totale du logement en France, une raréfaction, deux, l'arrivée de ces meublés touristiques, que je ne conteste pas, elles sont là, et aujourd'hui, quand vous êtes en zone...
Pas, mais en même temps, vous représentez les métiers de l'hôtellerie, et ça vous a posé quelques problèmes.
Donc ouais. je pourrais même en débattre là-dessus, mais aujourd'hui, le meublé touristique, évidemment, est venu télescoper le logement saisonnier, et aujourd'hui, il n'y a plus de logement saisonnier. Nous avons passé à l'UMI des accords avec des organismes comme Action Logement, pour aller regarder un petit peu ce qu'il y a comme immeuble à rénover pour pouvoir loger nos saisonniers. Il y a une nouvelle forme de saisonnalité aussi, des gens qui s'intéressent de travailler que de façon saisonnière, et on a là aussi besoin de les loger, mais en tout cas c'est un vrai sujet et c'est télescopé évidemment par une dérégulation totale de notre société.
En attendant, on entendait ce matin sur France Info, à la mairie de Honfleur par exemple, en Normandie, petite ville touristique, on loge les saisonniers dans l'internat de l'école cet été. C'est un placebo typiquement ?
C'est pas durable. Clairement, c'est un placebo. Il faut réfléchir là aussi à la construction de logements sociaux, parce que nous avons besoin de logements saisonniers. Encore une fois, je réponds, nous l'avons fait avec Action Logement pour récupérer des choses que ne pourrait pas financer une ville pour qu'on puisse les remettre sur le marché. Parce que encore une fois, quand on parle de saisonniers, on ne parle pas simplement de nos personnels de service ou notre personnel de cuisine. Il y a toutes les saisonniers de l'agriculture, il y a les saisonniers du monde de la pêche, les saisonniers du bâtiment qui ont besoin aussi de se loger. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet et on y travaille. Et encore une fois, ça ne se fera pas sur deux saisons. Il y a eu une belle avancée d'ailleurs grâce à la ministre Olivia Grégoire sur la loi qu'elle a fait passer, la réglementation qu'elle a fait passer l'année dernière. Mais il faut aller plus loin. Encore une fois, c'est une question de regard sur du long terme et pas sur du court terme.
Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Brakia.
Toujours avec Thierry Marx, le président de l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Pour les JO de Paris, on s'attend à voir venir près de 7 millions de visiteurs dans la capitale. Alors les prix des chambres d'hôtel vont être multipliés par 3 pendant les JO. Une hausse de plus de 220% des tarifs dans la nuit de la cérémonie d'ouverture dans certains établissements. Est-ce que vous trouvez ça normal ?
Alors, c'est pas anormal en tout cas. C'est-à-dire que quand il y a une offre qui est forte, eh bien finalement, le commerce fait que vous avez des prix qui augmentent. Mais globalement, beaucoup d'hôtels ne sont pas complets. Sur un pic comme une cérémonie d'ouverture, ce sera ma 4e Olympiade. Donc j'ai remarqué ça partout. En gros, on se dirige vers un taux d'occupation de 70-72%.
C'est beaucoup, pas.
C'est bien pour, c'est très très bien pour juillet-août. C'est vraiment très très bien.
Mais ce sera pas
plus. Et après, vous avez effectivement des périodes où les prix ont flambé peut-être un petit peu et un petit peu trop. Mais en même temps, on parle des hôtels. Donc les hôtels qui ont dû faire face à une augmentation très forte de leur énergie, une augmentation due aussi aux plateformes qui sont un intermédiaire entre le client et l'hôtelier. Donc tout ça fait qu'il faut à un moment le répercuter. Mais croyez-moi, il y a des périodes où même pendant les Jeux, les prix vont baisser. Et on regarde toujours à la loupe, mais vraiment, je veux dire, là c'est grossissante, vraiment très grossissante, une loupe très grossissante, l'hôtellerie. On ne parle pas des meublés touristiques qui, eux, très discrètement, ne payent pas de charges, sont une niche fiscale et qui se disent, nous tout va bien, on engrange et on vient télescoper, on dérégule.
Quand vous entendez justement des propriétaires congédier leurs locataires pour pouvoir louer leurs biens meublés, donc pendant les JO, comment vous réagissez ?
Merci de le faire constater sur un plateau, parce que voilà. Alors encore une fois, j'ai rien contre rien. C'est une dérégulation. Quand Bercy nous dit on cherche beaucoup d'argent, regardez un petit peu de ce côté-là. Il y a une société qui se dérégule complètement. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce que payent simplement les hôteliers sur la taxe de séjour, plus de 500 millions d'euros, et combien payent de taxes de séjour ces meublés touristiques, mais c'est pas un delta, c'est un gouffre.
C'est de la concurrence déloyale ?
C'est de la concurrence totalement déloyale, bien sûr.
Alors on va quand même rappeler qu'à l'Assemblée nationale, une taxation plus importante a été votée sur les meublés touristiques, ce qu'on appelle les Airbnb. Le texte va passer au Sénat, vous appelez les sénateurs à la voter aussi.
Mais bien sûr, au moins à regarder dans le détail pourquoi on accepte cette dérégulation. S'il faut l'accepter, vous verrez qu'énormément d'hôtels vont se transformer sinon. Mais il faut, si on veut accepter que ces hôtels vivent, payent leurs taxes, et croyez-moi, elle a lourdement augmenté, et notamment cette taxe de séjour pour payer des infrastructures. Donc là, on fait preuve de résilience encore une fois, et dès qu'il y a un pic de consommation, on peut un petit peu faire du chiffre, et là, on serait coupable de quoi ? Donc, à un moment donné, il faut regarder les choses avec un petit peu de hauteur et de se mettre à se dire, bah, il y a peut-être une dérégulation du système qui est trop importante aujourd'hui.
Thierry Marx, je reparle d'un main-d'œuvre pour les Jeux Olympiques à Paris. On y est, le compte est bon en termes de main-d'œuvre dans les hôtels et les restaurants?
Non. Non, 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 il nous manque encore des collaborateurs. Quand vous annoncez des périodes où on est en tension, là on sera en tension, même sur Paris, d'habitude on est un peu moins en tension parce que le marché est un peu décroissant sur juillet-août, et c'est normal dans une ville comme Paris ou d'autres grandes villes, mais globalement, là, pour la période des Jeux, il nous manque encore des personnels.
Combien
J'ai pas le chiffre exact, mais on est toujours, comme on a parlé de 200 000 postes à pourvoir sur l'ensemble de la France, aujourd'hui, l'ensemble de la France est en manque, donc pensez bien que Paris, c'est la même chose.
Et vous allez libérer un nouveau poste en plus, parce que vous avez annoncé votre départ du mandarin oriental après 14 ans de bons et loyaux services. Pourquoi vous partez ?
Pourquoi je pars ? Parce que d'abord, 14 ans, c'est beaucoup. Et puis, je suis parti en 2023 parce que j'ai adoré cette compagnie. J'ai travaillé sur la zone France, bien sûr, et sur la zone Asie. Donc, c'était une vraie rencontre avec des personnes qui, à l'époque, pilotaient ce groupe. J'ai une pensée pour eux à chaque fois, mais qui ne sont plus dans le groupe. Hein. Ils ont quitté le groupe pour la limite d'âge ou d'autres raisons. Et donc, voilà, je ne me retrouvais plus dans ce petit noyau assez fort qui était des valeurs que je partageais avec les dirigeants de l'époque.
Vous voulez vous focaliser sur votre restaurant Honor ?
Oui, Honor, parce que c'est un restaurant qui est dans une économie, dans une entreprise à mission, qui aboutit à ces 10 écoles d'inclusion et d'insertion que nous avons montées. Et puis, la grande chance pour nous, c'est d'avoir été reconnu cette année au Guide Michelin. Donc, ça aide beaucoup dans notre action de regarder un petit peu les croissances d'entreprise autrement. Des croissances qu'on sait mesurer avec des normes de mesure d'entreprise, mais aussi mesurer son impact social et son impact environnemental.
Et vous avez déjà un label bleu-blanc-cœur qui définit ce qu'est un bon produit, son impact social, environnemental, nutritionnel. C'est une manière de soutenir les agriculteurs dont on parlait.
Mais c'est surtout une super manière, évidemment, de soutenir les agriculteurs. Je rappelle que c'est pas une industrie. J'ai vu que j'étais attaqué sur un plateau en me disant il est payé par un industriel. Non, non, c'est un label où je suis totalement bénévole. Ça fait 20 ans, 24 ans que ce label existe. Et en même temps, il part d'un constat assez simple. Qualité des sols, donc pas d'intrants. Qualité de la plante, bien-être animal, et on s'aperçoit que ça nourrit correctement l'homme. Tout ça, un bon produit pour tous. Mesurer, je dis bien mesurer, le mot est important, l'impact social, la rémunération, l'impact environnemental et l'impact nutritionnel du produit. Et ça, vous le trouvez dans une épicerie très chic dans les grandes villes, mais aussi dans vos systèmes de distribution.
Responsabilité environnementale, responsabilité sociale aussi que vous mettez en avant. Parce que c'est pour ça que vous allez ouvrir une école à Marseille pour former de grands chefs des personnes éloignées de l'emploi au métier de bouche, de l'hôtellerie et de la restauration.
Alors, il est vrai que nous avons 10 écoles d'inclusion professionnelle, d'insertion professionnelle pour des personnes qui, des fois, été éloigné d'un projet métier. Oui. Et puis, on s'est dit, il y a quelques années, il faut aussi former les futurs managers et les futurs chefs d'entreprise à se dire, eh bien, je suis capable de mesurer les résultats économiques de mon entreprise, sa croissance, mais il faut développer l'idée de la croissance en conscience. Donc, vous avez les outils de mesure économique, mais aussi les outils de mesure de l'impact social environnemental.
Et c'est ça, une manière de motiver les jeunes dont on a vu qu'il n'était pas facile de les recruter en ce moment.
Alors, il n'est pas facile de les recruter, c'est vrai, mais il est très facile parce qu'ils n'ont finalement pas besoin de notre motivation. Ils sont motivés. D'ailleurs, on refuse du monde dans nos formations parce que ces jeunes gens se disent « Non, 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 c'est comme ça que j'entrevois de faire ma boîte à moi ».
Merci beaucoup Thierry Marx, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, d'avoir été ce matin dans le 8-30 de France Info. Je vais vous laisser en compagnie de Salia Braclia, le programme des informés dans 5 minutes.